Bonjour. Alors, nous sommes Père et Gimel, Mishnah Vav. Rabbi Chalafta, l'homme du village Hanania. Qui c'est Rabbi Chalafta? Il y a Rabbi Chalafta connu dans la Gemara. Probablement, il s'agit de lui. C'est le père de Rabbi Yossi. Quand Rabbi Yossi parlait de son père, il disait: Abba Chalafta, mon papa Chalafta. Rabbi Chalafta était un copain de Rabbi Akiva. Rabbi Yossi était l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Yossi ben Chalafta, il s'appelle. Toujours le Rabbi Yossi, le connu Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Meir. C'est Rabbi Yossi ben Chalafta. Probablement celui, Rabbi Chalafta. Ishkvar Hanania, il a dit. Asara shi Yoshvim. Oskim Batora, 10 personnes qui sont assises et ils étudient la Torah. Shrina Shuraya Benehem, la Shrina, elle réside parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont assis, ils étudient la Torah? Ça change quelque chose si on est assis ou si on est debout? Bon, normalement, on étudie plus assis que debout. Pourquoi? Parce que quand on est debout, alors, ça prend de la force. Le corps, il s'use quand il est debout. Donc, quand on veut réfléchir bien, quand il faut bien réfléchir, il faut mettre toute la tête dedans, il faut avoir un maximum de force. Alors, si on gaspille de l'argent pour être debout, on ne peut pas mettre tellement bien la tête. Donc, assis veut dire bien, bien se concentrer. Assis, c'est aussi un geste physique, on est assis. Et ça signifie aussi qu'on est bien concentré. On est assis, ni on se promène, ni on est debout, ni on est couché dans un état de paresse. Mais la meilleure position, c'est assis. D'ailleurs, il y a une halakha, Ein Meshivin Me'umad. Quand quelqu'un pose une question, et il faut répondre une halakha, la Gemara nous dit, il faut s'asseoir. Bon, peut-être on ne parle pas, une halakha, est-ce que Shabbat c'est le 6e jour ou le 7e jour de la semaine? On ne parle pas de ce genre de questions. Mais une question qu'il faut réflexion, il faut bien se souvenir, il faut bien calculer, il faut se concentrer. On dit, on ne répond pas debout. Il faut s'asseoir, bien, bien mettre la tête. Asara, shi yoshvim, voskim batora. 10 qui sont assis et ils étudient la Torah. Oskin, le mot osek, ne veut pas simplement dire l'omède. Osek, ça veut dire il. Osek, c'est avec toute la force, comme ça il dit le Taz, la traduction. Osek, bedivrei Torah. Il fait de ça son essek, son affaire. Il est dedans. Asarash, yoshvim, voskim, ba Torah. Shechina, shiruya, benehem. La Shechina, il est parmi eux. Normalement, la Shrina, elle est plutôt Beth Amikdash. Mais maintenant, nous sommes après le Chorban du Beth Amikdash. La Shrina n'est plus au Beth Amikdash. Elle est où? Elle est là où il y a 10 personnes qui sont assises, sont Oskim Batora. Ce n'est pas comme le texte dit, Elokim Nitzav Ba'adatkel. Dieu, il est Nitzav, il est debout, Ba'adatkel, dans la communauté de Dieu. Adat, Eida, c'est toujours 10 personnes. Admatai la Eida hara'a hazot. Eida veut dire 10 personnes. La communauté juive, c'est toujours minimum 10. Elokim, Nitzav, il est debout. C'est-à-dire, quand la communauté juive était en train d'étudier, Dieu, il est présent. Et Dieu, il est même debout. Lui, il se met debout. Bon, lui, il est costaud. Il n'a pas besoin de s'asseoir. D'où je sais que même 5 personnes, Dieu il est présent. Mais en vérité, si à Kadesh Baruch Hu il est même s'il y en a 5, alors pourquoi tu as parlé d'abord de 10? Quel est le chidouche de Elohim Nitzabadaskel? Ça veut dire quoi? C'est mieux 10. Il y a plus de Shrina. Ça veut dire quoi plus de Shrina? La Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a plus, il y a moins d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Shrina, ça, c'est Akadesh Baruch Hu, c'est bon, c'est de la théologie, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais la Shrina, c'est la dernière présence d'Hachem dans ce monde. Akadesh Baruch Hu, il est même à l'école Almin, il est partout, il est tout. Il est abstrait, il est loin de ce monde et il est quand même dans le monde. Il est même à l'école Almin, il est partout, mais pas de la même façon. Il est partout, mais il est plus au Beth Midrash. Il est plus au Beth Knesset. Il est plus au Beth Amikdash. Il est plus chez les Tzadikim. Il est quelque part partout. Et comme il dit après, si quelqu'un pose une question, Kavod, si Akadejo, il est partout, est-ce qu'il se trouve au bain, il se trouve dans une toilette? Il doit se trouver partout, mais il est caché là-bas, là-bas, la Kedusha. Akadejo, il est partout, mais pas de la même façon. Et quand on dit ici, la Shrina Shérouya Benehem, elle est Shérouya, elle réside, c'est-à-dire une grande partie de la Shrina, il est proche. Elokim Nitzav Vadat Kel. C'est comme la Havdil, la Havdil Ben Bassar Vadam, mais Akadejo, quand on arrive dans une mairie, il y a toujours une photo du président. Voilà, il est présent. Mais si tu vas à l'Élysée, c'est autre chose. Là, il est là, mais il n'est pas de la même façon. Ou minayin afilu chamisha shenemar va'agudato al eretz yesada. Ou minayin afilu shlosha, d'où je sais qu'il y a même trois personnes qui étudient. Shenemar bekeref Elokim yishpot. Donc Dieu, il juge le jugement. Yishpot, ça veut dire les gens, ils jugent et Akadosh Baruch Hu, il leur aide. Jugement, c'est toujours par trois. Ici, on parle de jugement, mais chaque jugement, c'est un Esek Batorah. Les juges, ils doivent analyser qu'est-ce qu'elle pense la Torah dans tel cas. C'est un Esek de Torah. Et chaque Esek Torah, c'est aussi un jugement. Un jugement peut être directement, ça concerne deux personnes qu'on juge entre eux pour l'argent. Et après, les jugements théoriques de chaque halakha. D'où je sais qu'il y a même deux personnes qui étudient. On a déjà dit le passouk. Même un qui étudie. Dans tous les endroits où je permets qu'on prononce mon nom, je viendrai chez toi, je vais te bénir. Alors ce passouk, il dit quoi? Je vais faire rappeler mon nom, rappeler le nom d'Hachem. Mais le Tanaï parle ici des Esek Torah. Alors qu'est-ce que c'est? On parle d'étude de la Torah, on parle de prononcer le nom de Dieu. Normalement, prononcer le nom de Dieu, on aurait dit on parle de Tfila, on parle de dire une bracha, on dit Baruch HaTashem, Elokeinu Melech Olam. Mais quand on étudie, on prononce pas forcément le nom d'Hachem, on étudie quelque chose. On va dans tout Chazal. Ça marche ensemble parce que le sod de Divrei Torah, c'est toute la Torah, ce sont des noms d'Hachem. Comment ça fonctionne? Ça, c'est une étude. En tout cas, toute la Torah, l'écrite et orale, c'est un essai dans les noms d'Hachem. Qu'est-ce que c'est les noms d'Hachem? Ça, il y en a moque, mais en tout cas, ça, c'est essai à Torah. Quand on étudie, automatiquement, on émet Kadesh des noms d'Hachem qui sont pas visibles à première vue, tels qu'ils sont écrits, mais en vérité, ce sont aussi des noms d'Hachem. Donc ça, c'est, qui a dit ça? Le père de Rabbi aussi. Rabbi Lazar Ish Bar Tota. Ish Bar Tota, il venait de la ville Bar Tota. Omer, lui, il disait, Ten lo Michelo, donne-lui. Donne à qui? Donne à Dieu. Michelot, de ce qui lui appartient. Shata, Veshelcha, Shelo. Par toi-même, ton corps, Veshelcha, et ce qui t'appartient, c'est-à-dire ton argent, Shelo lui appartient. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je donne? Tenlo, donne à lui. Michelot, de ce qui m'appartient, quoi, de mon argent, je donne à Dieu. Pourquoi Dieu, il a besoin de mon argent? Non, lui, il n'a pas besoin de mon argent. Mais il me demande à qui donner, par exemple aux pauvres. Hachem, il dit alors, vas-y, donne tzedaka. Alors, moi, de mon argent, je veux donner aux pauvres, mais c'est à moi. Alors le Tana, il dit, mais ça veut dire quoi, c'est à toi? C'est à toi, et toi, tu appartiens à qui? Tu appartiens à Hachem. Alors donc, ton argent aussi à Dieu. Alors quand Dieu, il te demande de donner ton argent, c'est en vérité, c'est de l'argent qui est déposé chez toi. Alors l'argent, quelqu'un me dépose son argent chez moi. Et après, il me dit, je voudrais que vous virez cet argent à monsieur tel et tel. Je n'ai pas le droit de dire, non, non, vous avez déposé chez moi, je ne le vire pas à l'autre. Mais je l'ai déposé chez vous. Vous n'êtes pas le patron. C'est l'autre le patron, donc c'est à lui de décider. L'argent que l'homme, il a, appartient à Hachem. Et lui, il te dit, je dis, tu dois le déposer. Alors, qui dit ce chacham? Rabbi Elazar, Ishbar Tota. Cet homme-là, est-ce qu'il était mekayem ce qu'il a dit? Un tana, il doit mekayem. Dire, donner tzedaka, c'est facile. On dit aux gens, donner tzedaka, mais vous, monsieur le rabbin, vous donnez aussi. Alors, les paroles ne sont en valeur que si lui le fait aussi. Alors, la Gemara nous raconte sur Rabbi Elazar Ishbar Tota des phénomènes sur lui. La Gemara nous dit, il avait la coutume que quand on lui demandait tzedaka, un particulier ou le gabaï tzedaka, il donnait toujours ce que l'autre a demandé. Ce que l'autre a demandé. Comment c'est possible? Comment on peut faire une chose comme ça? Je ne sais pas exactement comment. Mais il donnait tout ce qu'il avait sur lui. À tel point que les gabaï tzedaka, ils l'ont évité. Quand il se promenait dans la rue, le gabaï tzedaka, il est venu et dit, oh là là, Elazar Ishbar Tota, il vient. Oh là là, je ne peux pas lui demander tzedaka, il me donne tout son argent. J'ai peur qu'il va lui manquer pour sa vie. Et on nous raconte une histoire. Un jour, il se promenait. Et le gabaï tzedaka est venu. Et le gabaï tzedaka, il s'est sauvé. Et lui, il a couru derrière. Il a dit, pourquoi vous courez? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ramassez aujourd'hui d'argent, vous faites une tournée. Ils ont dit oui. Alors il dit, dites-moi, pour qui vous ramassez d'argent? Il ne voulait pas dire. Il les a obligés. Vous allez me dire, je vous oblige de me répondre. C'était deux gabaï ou trois gabaï tzedaka. Ils ont dit, il y a un mariage d'un orphelin avec une orpheline. Ça veut dire, ni ce père il a de l'argent, ni ce père il a de l'argent, ils ne sont pas là, orphelin, orpheline. Alors il a dit, mariage d'un orphelin et d'une orpheline, très bien, combien d'argent vous avez besoin? Il a pris son argent et regarde combien il y a. Alors, il a dit, cet argent-là, j'ai sorti ce matin, je suis parti pour payer le mariage de ma fille, parce que moi aussi, je marie ma fille. Ben, orphelin, orpheline, c'est plus important. C'est vrai, sa fille n'était pas une orpheline, ça c'est juste. Il a dit, voilà, vous prenez l'argent. Il a donné tout l'argent qu'il a préparé. Il a dit, une pièce, je laisse pour ma fille. Un dinar, il laisse pour sa fille. Tout le reste, il a donné, vous payez le mariage de cet orphelin, de cette orpheline. Bon, il a tout donné. Après, non, il reste un dinar. Il part au magasin. Un dinar, donnez-moi de la farine pour acheter. On lui donne pour un dinar. Non, il arrive à la maison. Mais il avait peur de sa femme. Bon, il a mis dans le garage le kilo de 2 kilos de farine et il a mis dans le garage. Il est parti. Entre-temps, ça, plus tard, il est rentré. Sa femme me dit au mari, dis-moi, nous, tu as acheté tout ce qu'on a besoin pour le mariage? Elle dit, je vais acheter, je l'ai mis dans le garage. La femme, elle est partie et le garage était plein à craquer de farine. Comment? Ça poussait. Un miracle. Il existe des miracles, je ne sais pas comment ça s'explique. Pour 1 kilo de farine qu'il a mis, il y avait maintenant 100 kilos. Non, la femme était contente. Ah, pshh. Avec cet argent que j'ai donné tellement beaucoup, mais lui, il a compris le coup. Ah, le bon Dieu, il est intervenu. Il a dit, je ne veux pas profiter de ça. Ça, c'est un miracle. Je ne veux pas profiter du miracle. Je veux gagner mon argent sans intervention. Les miracles, moins qu'on peut, si on peut se débrouiller sans ça, c'est mieux. Comme ça, Machma de la Gemara plusieurs fois. Miracle, c'est quand on a vraiment besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Que le mariage de sa fille sera fait avec un minimum, pas besoin de profiter de ça. Il a juré, je ne profite pas de cette farine. Il y a plusieurs histoires comme ça dans la Gemara. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de ce Rabbi Lazar Ish Bar Tota? Que quand lui, il a dit « Tenlo, Michelo », c'est l'homme qui a accompli ça. Comment on peut le faire? Tout son argent, il donne au Gabay Tzedaka. Bon, probablement pas toutes les... chaque jour, il marche avec tout son argent sur la rue. Et sinon il ne peut pas vivre. Mais en tout cas, il donnait beaucoup, beaucoup de Tzedaka. Combien de Tzedaka, Bémet, on doit donner? Normalement, les gens ils disent qu'il faut donner 10%. Aser, ta aser, il faut donner 10%. L'agma nous dit aser, ta aser, c'est aser, ta aser, 2 fois 10, ça fait 20, 20%. Pas plus que 20%. Si on donne plus que 20%, après, à la fin, on risque de devenir pauvre. Soi-même, on est obligé de mendier. Ah, il ne faut pas faire. Sauf si quelqu'un est vraiment très riche. Il n'a pas besoin d'avoir peur d'être obligé de devenir mendiant. Il peut donner plus que 20%. Mais normalement, un homme normal, il ne doit pas donner plus que 20. Mais est-ce qu'il faut donner 10 ou il faut donner 20? Amasé le Baal HaTanya a dit que le minhag de tous les juifs religieux depuis toujours, on donne plus que 10%. On donne jusqu'à 20%. Pourquoi? Parce que 10%, à l'époque que les juifs étaient en Eretz Israël, ils avaient des terrains. Donc, il y a quoi? Il y a la mitzvah de Troumotouma Asrot, qui était agriculture. Agriculteur, c'est ça qui les fait gagner d'argent. Donc, tu donnes 10%, tu donnes aux Lévi. Les Lévi, c'est que Sekba Torah, tu donnes 10%. Très bien. Les Lévi aussi, souvent, il y avait des pauvres aussi. Mais il n'y a pas que Maaser Rishon. On donne aussi la troisième et la sixième année, on donne Maaser Ani, encore un deuxième mois Ani. À part ça, on donne Trouma au Kohen, on donne Bikurim au Kohen, on donne Reishit Hagez au Kohen. Mais il n'y en a pas que ça. On faisait des Korbanot, Shulamim, s'il faut, on paye un Khatat, si on a fauté, on paye un Khatat, on paye un Hacham. Il y a des Erchin, il y a beaucoup de dons dans le Bet HaMikdash. Tous ces dons, nous n'avons pas aujourd'hui. Un homme, il a fauté, il veut faire un Korban Khatat. Où tu vas faire un khatat aujourd'hui? Aujourd'hui, khatat, c'est tzedaka, tu donnes de la tzedaka. Tous les korbanot qu'on a portés de Mikdash, toutes les nedavot, et le demi-shekel, et plein de choses qui sont marquées dans Mishnayot, c'est Shkalim, et dans tout, à travers tout le chasse. C'est des dons Beit Mikdash et différents soutiens. Tout ça, c'est aujourd'hui où tu donnes pour les pauvres, hein? Où tu donnes la tribu des Lévi pour enseigner la Torah, pour apprendre la Torah. Donc, à la fin, 10% le Maaser Rishon, et après tous les autres, ça fait encore 10%, donc ça fait 20%. Donc, ça dit, comme ça dit Baal HaTanya, comme ça dit le Gondeville Naudi, aussi, le Gondeville dit, ceux qui donnent moins que 20%, c'est un chachash, qu'on n'est pas maquillé, mais les mitzvot de Staka, comme il faut. Il y a Leket, il y a Shikha, il y a Peya, il y a Olelot, il y a encore plein de dons qu'on donne. Tout ça. Donc, ceux qui peuvent donner 20%, c'est mieux de donner 20%. 10%, c'est vadaï. Mais dans ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont coincés, dans ce cas-là, il y a un khanam, mais c'est autre chose. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent, il ne peut pas donner parce que lui-même, il n'arrive pas à joindre le debout. Il doit payer le loyer, il doit payer le téléphone, il doit payer. Alors, un khanam, mais dans ce cas-là, si lui-même, c'est un pauvre, eh bien, il donne à lui-même. Et si on est pauvre lui-même, mais il faut essayer de lui donner de ce qu'on peut. Si on ne peut pas donner 10%, on donne 5%. Si on doit donner l'argent pour l'école, on donne de son maaser pour l'argent. L'argent de maaser pour l'école. Ben là, il faut payer l'école. Tu emmènes des enfants, tu enseignes la Torah. Mais si tu peux, en dehors du maaser, c'est mieux. Si on ne peut pas, selon ce qu'on peut. Alors, en tout cas, il y a un grand mitzvah de donner. Tenlo Michelo, ce n'est pas ton argent. À part qu'on donner de l'argent, c'est une grande skoula pour être tzlacha. C'est quelque chose de phénoménal, les gens qui donnent comme il faut. On leur montre des choses de merveille. Souvent, on donne 200 euros, on reçoit 200 euros, on donne 500 euros, on reçoit 500. C'est chacun le fait de ce qu'il peut, mais un certain des chemins est spécial. Mais il ne faut pas donner trop. Si on donne trop et on n'a pas assez, après on se endette, ça on n'est pas obligé, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de donner trop. Il y a un chiour de chaque chose. Tenlo Michelo, Shata, Veshelcha Shelo. David David Melech, il dit aussi comme ça, Ki mimcha hakol, tout y vient de toi. Umiyat chanatanulach, c'est de ta main qu'on te donne. Rabbi Shimon Omer, Qui c'est ce Rabbi Shimon? En principe, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon ben Yochai, comme on avait dit. Amalech baderech, un homme qui marche sur la route, veshoné, et il est en train de répéter, il étudie. Ici, ce n'est pas marqué veosek. Amalech baderech veosek batora. Parce que sur la route, quand on marche, c'est difficile d'être osek. Osek, c'est profondément. Mais comme il disait Yosef à ses frères, quand les frères ont quitté Mitzrayim pour revenir chez leur père après qu'ils ont récupéré Yosef et Shimon, Al tirgezu badarech. Ça veut dire quoi, Al tirgezu badarech? D'après une explication, ne étudiez pas profondément sur la route, de peur que vous allez faire un accident sur la route. Alors, meshoner, répétez-lui, Amalech badarech, ceux qui marchent sur la route, meshoner, ils révisent. Et il arrête son étude. Omer, il dit, Manae ilanze, mais comment il est beau cet arbre. Manae nirze, comment elle est belle, comment il est beau ce champ qui était labouré. Benafsho. La Torah lui considère comme s'il est Hayav Mita. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la vie. Tu es au milieu de s'occuper de la vie, et quoi? Et tu coupes. C'est comme Mitraïev Benafcho. Ce sont des expressions que nous, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre ça. On arrête d'étudier, comme si on a Chayav Mita. Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi, ça? C'est des choses, on voit ici dans les Mishnayot, il y a un phénomène que. On ne saisit pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Les Chachamim parlent de quelque chose, transmettre la Torah, répéter la Torah, connaître la Torah, étudier la Torah, c'est quelque chose qui s'appelle la vie et on n'arrête pas la vie. Un homme, il respire, on n'arrête pas de respirer. Celui qui arrête de respirer, qu'il est mitraïev benafcho. Et si quelqu'un ne peut pas respirer, mais qui a vécu une machine à respirer, on lui met un. On met un masque à oxygène ou un autre chose pour respirer. Quelqu'un va lui retirer. Mais il ne peut pas respirer. Il ne peut pas vivre sans ça. Mais c'est un assassin, tu retires ça. Et ici, Rabbi Shimon, il dit, quand on étudie, tu es au milieu, il faut avoir la tête dedans. Tu ne fais pas autre chose. Quel est le pshat? Comme Chayav Mita, on ne sait pas. Il faut lire la Mishnah telle qu'elle est écrite. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'étude de la Torah, que nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne connaît pas l'importance. Il faut regarder ce que les Tanaïm disent. Les gens qui ont vécu dans la Torah, qui ont transmis la Torah, qui ont sauvé la Torah, dans le monde, il y a beaucoup de savoir, mais il y a une chose, ça s'appelle la Torah. C'est autre chose de tout le reste du monde. Et ce savoir doit être transmis de génération en génération. Un juif a besoin de la Torah, c'est sa vie. Et le Chachamim raconte ici des proverbes phénoménales. Le prochain aussi, Rabbi Doustaïb, Rabbi Anaï, Ishum Rabbi Meir. Rabbi Doustaïb, le fils de Rabbi Anaï, il a dit au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir aussi, il dit ici une parole incompréhensible. Kol ha-shokheach davar echad mi-mishnato. Celui qui oublie quelque chose de son étude, pourquoi il oublie? Parce qu'il ne révise pas. Il a étudié, mais il faut réviser, il faut le faire rentrer dedans, dans la tête, pour le marteler ce qu'on étudie dans la tête. Mais lui, il oublie. Pourquoi il oublie? Parce qu'il ne révise pas. Non, non, il a oublié. Pourquoi? Non, non, il a oublié. Oh, Rabbi Meir, il dit, ceux qui oublient une chose, le Mishnato. La Torah considère comme il est chiyuv mita. C'est terrible de lire un ma'amar comme ça. Comme ça, Rabbi Meir nous dit, Rabbi Meir, il a vécu comme ça. Rabbi Meir, ses copains, ça c'est les vrais chachamim sont comme ça. Peut-être qu'on nous a jamais vu des vrais chachamim, ou on a vu un chacham, peut-être ça existe. Les chachamim qui ressent que l'étude, c'est leur vie. Kilomitrayev benafsho. Nema, comme le texte dit, Raki Shomer Lecha. Fais attention, Ushmor Nafshecha Merod, et fais très attention, Nafshecha sur ton âme, peine de peur, Tishkachet Advarim, tu oublieras les paroles de la Torah, Asherah Ouenech a convu tes yeux. On parle là-bas du matin de Torah. En ton matin de Torah, nous avons vu les paroles, les Aseret HaDibrot. En Aseret HaDibrot, bien sûr, est inclus toute la Torah. Asherah pour des Arabsa, des Karon, tous les 620 000. Ils sont 13 mitzvot et les 7 mitzvot se trouvent dans les 620 lettres d'Aseret HaDibrot, mais c'est plus profond que ça, bien sûr. C'est toute la Torah, il se trouvait dedans. Après, Moshe Rabbeinu, doucement, doucement, il a raconté le reste de la Torah. Tu n'as pas le droit d'oublier les paroles que tes yeux ont vues. Et ça n'est pas seulement dit à la génération qui a vécu à Sinaï, c'est dit pour toutes les générations. Parce que toutes les générations, tous les juifs, ils étaient à Arsénée. Nous aussi, on était là-bas. On a aussi entendu, on a entendu toute la parole, toute la Torah, kol haTorah kula. Ce monde arrive après sur terre, on révise. Quand tu étudies, tu révises, tu retrouves ce qui se trouve en vérité dans le disque dur, dans le cerveau d'un juif, il y a un disque dur. Et ce disque dur a enregistré tout. Il y a un logiciel où toute la Torah est dedans. Un juif, il connaît tout. La Neshama au ciel déjà, et après on arrive sur terre, on est 9 mois dans le ventre de la mère. Un malach, il vient et il étudie, il enseigne la Torah au bar. Quand un enfant il naît, c'est un homme qui connaît les chasses. Il faut savoir, un fœtus, il connaît le chasse. Et quand il sort, paf, eh ben, il oublie. Il oublie, mais ça reste dedans. C'est comme un ordinateur, tu as le disque dur et après tu as perdu. Il faut un hacker, il faut hacker, il faut rentrer dans le disque dur, on le fait sortir ce qui est dedans. Quand on étudie, tu fais sortir ce qui en vérité est dedans. En vérité, un juif il connaît la Torah, c'est ça le secret. Pourquoi on dit, il y a Meseret Horayot, on dit le Bedin Agadol qui se trompait et ils ont dit permis sur quelque chose qui est interdit. Et après, un juif, il a entendu, il a dit, les rabbinim à Yerushalayim, 71, en tout cas la majorité a décidé, c'est permis. Je m'appuie sur eux. Et après, on voit qu'ils se sont trompés. Alors, si c'est la majorité des juifs qui se sont appuyés sur leur psak, c'est le Bedin qui fait le khatat, le par Elam Dabar Shel Tzibur. Mais si c'est la minorité de peuple juif qui a imité, chaque individu qui a fait comme eux, ils ont dit, ils ont permis, il a fait, eh bien, il est obligé de faire un korban khatat, chacun. Et korban khatat, on fait seulement quand il y a quelque part une négligence de la personne. On sait honnête, quand un homme, il est un cas de force majeure, et il fait un chilou shabbat par cas de force majeure, il ne fait pas de khatat. C'est que shogeg, il fait khatat, mais pas honnête. Honnête, c'est cas de force majeure. Shogeg, c'est quand il y a une petite négligence. Tu as négligé quelque chose. C'est-à-dire, tu aurais pu éviter la chose, même difficilement, mais tu aurais pu éviter. Alors, une fois j'ai entendu Rabbi Abraham ce qu'il demandait, mais si le Sanhedrin Agadol dit que ça s'est permis, comment un bonhomme, il peut dire, non, peut-être ils se sont trompés. Comment tu peux savoir ils se sont trompés? Je dois connaître plus la Torah qu'eux. Un bachur bar mitzvah, il a 13 ans et un jour, et il a fait ce que les rabbinim ont dit. Et ils se sont trompés, et bien lui, il doit apporter un korban khatat après. Il dit Rabbi Avramsky, oui, il a dit, le proverbe, il a dit, toi, Baruch Bar Mitzvah, tu dois être un plus grand lamdan que ces chachamim qui se sont trompés dans une halakha. Quel est le sens? Comment est-ce possible? Ça tient à quoi? C'est le secret, il est que chaque juif, il a dans sa tête un logiciel où la Torah est marquée dedans. Ça, c'est moutard, ça, c'est assour. C'est très profond. Ça existe chez toi. Tu peux l'avoir. Tu peux connaître. Un homme, il peut connaître. On peut connaître la vérité. De dire, je me suis trompé, c'est jamais un cas de honnêteté, de cas de force majeure. C'est pas un cas de force majeure. C'est un shgaga. Alors, en tout cas, Rabbi Meir, il dit ici, tu n'as pas le droit d'oublier la Torah. Yachol, j'aurais pu croire à Philo Takfalav Mishnato. J'aurais pu croire que même si l'étude elle était trop difficile, il n'a pas saisi. Il a oublié la chose parce qu'il n'a pas pu comprendre bien. Talmud Lomar, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas tu n'as pas Chayamita. Ou Peignasur, Milvafra, Kolimei Chayecha. Il te quitte Ça veut dire quoi? Yassuru, tu vas les chasser. C'est quand un homme, il dégage la Torah. Alors, il y a deux sortes de dégagement. Il y a un dégagement de la Torah. Il jette la Torah dehors. Il veut oublier. Pourquoi il veut oublier? Tu as déjà vu un fou qui veut oublier la Torah? Par exemple, quelqu'un qui veut transgresser la Torah. Mais dans son souvenir, il se rappelle ce qu'il a étudié. Alors, il ne se sent pas bien. Ah, je ne peux pas faire ça, j'étais jeune, j'étudiais, je savais qu'on n'a pas le droit de faire. Alors il essaye d'oublier. Il existe malheureusement des gens comme ça. Ils veulent oublier ce qu'ils ont appris parce que je vais vivre tranquillement, que ma conscience me laisse tranquille. Alors il oublie. Ah, ça, c'est le pire des choses. Ça, c'est le pire des choses. Il veut oublier. Ça, c'est Chayav Mita, qu'il lui trahit ben Absho. Mais Rabbi Meir, il a développé l'autre extrême. Pas seulement que tu chasses vraiment, mais on ne répète pas. Et à cause de ça, on oublie ça aussi, ce n'est pas bien. Bien sûr, c'est une idée extrémiste. C'est, il va aller jusqu'au bout, mais c'est comme ça qu'il était Rabbi Meir. Comme ça, il était nos Chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, chaque chose qu'ils ont dit dans tous les chasses, ça sort des paroles. Ça sort d'une bouche des gens qui étaient complètement dans la Torah et saisissaient que la Torah, c'est la vie. Et ils prenaient chaque mot de la Torah, c'est leur vie. Il ne faut pas perdre la vie. Comme ça, ils nous ont transmis la Torah. Et chacun, il doit un peu saisir que oui, la Torah, c'est oui, la vie. Rabbi Hanina ben Dosa, Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina ben Dosa? Lui, il était à quelle époque? C'était l'époque à Rabbi Meir. On n'avait pas parlé avant Rabbi Meir. Rabbi Meir, oui. Avant, c'était Rabbi Dustaïb, Rabbi Anem, Shum, Rabbi Meir. C'est un élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir, c'était un descendant, probablement un petit-fils de Néron. Ça, c'est intéressant. Néron, l'égoïme le considère comme un fou, cruel, fou. Bon, on ne sait pas exactement jusqu'à où il était fou. Parce qu'il y avait beaucoup des historiens après qui n'étaient pas contents de lui. Alors, après l'histoire romaine, elle était passée par les historiens chrétiens, Tacite et Tertullien, Eusèbe. Bon, Tacite n'était pas un chrétien. Mais les autres, bon, ils ont déjà arrangé la chose. Tout ce qui était contre le chrétien, ils l'ont rendu fou. Est-ce qu'il était si fou? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, je ne connais pas. En tout cas, Néron, la Guano raconte, il se convertit à la fin. Chez les Goïmes, il y a aussi il y a un brouillard un peu sur la mort de Néron. Comment il a fini les incendies à Rome? Que vraiment il est mort, il est assassiné ou il a disparu. Il y a plein de guirsaot. La vraie, c'est comme la Gemara nous raconte, que Néron, il se convertit, il se sauvait. Se convertir, Rabbi Meir, son petit-fils. Phénoménal. Le grand Chacham Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est un petit-fils d'un roi goy. C'est phénoménal. Il y a des phénomènes dans le monde. Comment ça fonctionne? Un petit-fils d'un empereur. Sûrement, il était un peu cruel, c'est sûr. Ben, tout le monde raconte qu'il était cruel jusqu'à où, je ne sais pas. Mais et il a un fils qui s'appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a étudié chez Rabbi Akiva. Il a étudié aussi, la Gemara nous raconte, chez Rabbi Ishmael. Chez Rabbi Ishmael et chez Rabbi Akiva. L'Ikara avait été Rabbi Akiva. Aussi chez Rabbi Ishmael et aussi chez Elisha ben Avuya. Le phénomène, le copain, ce qui était autrefois un Chacham à l'époque de Rabbi Akiva, que malheureusement, il a rejeté la Torah. Et Rabbi Meir, il a étudié chez lui. La Gemara nous dit, pourquoi tu as étudié chez lui? Il n'avait pas peur qu'il va lui tourner la tête. Alors la Gemara nous dit, non, Rimon Matza, c'est comme une grenade. Tu as une grenade, tu manges le bon et tu jettes la clipa. On jette l'écorce. Dans la Torah d'Elisha ben Avuya, il y avait l'écorce. Il y avait une partie qui était contre la Torah. Et il y a une partie qui était merveilleuse. Et c'était mélangé chez Elisha ben Avuya. Et la Gemara raconte que Rabbi Meir, il a étudié chez lui. Et il savait faire la différence entre le bon et le mauvais. Comment Rabbi Meir, il savait faire la différence entre le bon et le mauvais? Pas marqué sur le Trachamim qui a étudié chez lui. Peut-être parce que lui, il était des descendants de Néron. Donc, il avait en lui une certaine tradition des gens contre la Torah. Et il a su faire la différence. Un homme qui a appris dans sa jeunesse de faire la différence entre les Rechaïm et les Tzadikim, entre le bon et le mauvais. Après, il n'a pas tellement peur. Il a étudié chez Elisha ben Avuya. C'est marqué un jour Shabbat. Elisha ben Avuya était sur le cheval. Il avait mérité à pied. l'Aïch ben Shibuya, il se permettait d'être Mahalel Shabbat. Alors il marchait, hein, Rabbi Meir à côté, et Rabbi Meir il lui posait des questions, Torah, raconte-moi ce que tu as appris chez tes maîtres. Et il lui enseignait, et quand à un moment, l'Aïch ben Shibuya il dit Rabbi Meir, pour que tu t'arrêtes, monsieur, parce que c'est fait 2000 pas, ici c'est le Troum de Shabbat, il faut arrêter. Alors Rabbi Meir dit, mais d'où tu sais que c'est ici le Troum de Shabbat? Il dit, parce que je connais la distance du pied de mon cheval et l'autre pied, et je calculais, je comptais combien de pas mon cheval il a fait. Donc selon ces calculs, pendant que je t'ai enseigné, j'ai observé bien mon cheval, et je sais que ça y est, maintenant on est arrivé à la fin de 2000 pas. Alors Rabbi Meir dit, maître, vous êtes tellement intelligent. En votre droit, vous calculez les trucs. Vous êtes un fichier. Alors arrêtez vos bêtises. Faites tchouva et arrêtez vos trucs. Elle dit, moi je ne peux plus. Moi je ne peux plus faire tchouva. Elle dit, pourquoi vous ne pouvez pas faire tchouva? Oui, j'ai entendu une voix à Horé à Pargod. Ça veut dire, il a fait une fois une expérience mystique. Il faisait partie de ces quatre rachamim qui ont fait une expérience mystique. Et alors j'ai des contacts. J'ai entendu qu'on disait au ciel, on ne veut plus de moi. Que tout le monde fasse tchouva sauf Elisha ben Avouya. Il a dit, mais non, en fait. Il est parti dans le Bat Midrashim, il demandait aux enfants, qu'est-ce que vous avez étudié? Et chaque enfant, il a dit un passage comme par hasard, qui veut dire, on ne veut plus de vous. Alors il a dit, ça y est, tu vois bien qu'on ne veut pas de moi. On ne veut plus de moi. Et c'était bien sûr, c'est une erreur. On veut oui de lui. On veut de chacun fait tchouva. Mais c'était un piège. C'était un piège. On ne veut pas de vous. C'est vrai, si vous ne faites pas de tchouva, on ne veut pas de vous. Mais si vous faites tchouva, on veut oui de vous. Après, il y a toute une discussion. Est-ce qu'il a lui fait tchouva? Il n'a pas fait tchouva? Il est niftar? Bon, toute une histoire. Alors, Rabbi Meir essaie de le faire sortir du Gehinnom. Il a réussi. Bon. Alors, Rabbi Meir, il a dit, donc, il ne faut pas oublier ce qu'on étudie. Maintenant, bref, Rabbi Hanina ben Dosa. Alors, Rabbi Hanina ben Dosa, c'était l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il habitait dans la même ville. Il y avait une ville, Rabbi Yochanan ben Zakkai, pendant 12 ans, il était dans une ville au Galil qui s'appelle Arab. Arab et Rabbi Hanina ben Dosa aussi étaient dans cette ville. Mais on ne trouve pas dans le chasse des halachot en nom de Rabbi Hanina ben Dosa. Si on met un grand chacham, un maître, un copain de Rabbi Yochanan ben Zakkai, un élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais la Gemara ne nous raconte pas des chidushim de lui à Halakha. On ne raconte pas. Il y avait sûrement, mais on ne lui dit pas. Mais ce que la Gemara raconte lui de ce chacham, c'est son Yirat Shamayim, son chassidut, ses prières, sa kedusha. Il y a plein d'histoires sur Rabbi Hanina ben Dosa. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, son fils, était malade, il demandait à Rabbi Hanina ben Dosa, s'il te plaît, prie pour lui. Il a prié et ça marchait. La femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, pourquoi tu demandes à ton élève de prier? Et toi? Elle a dit, mon élève, c'est spécial, lui, sa prière, lui, il s'est remué le ciel et la terre, il était spécial. Pas seulement lui, même son âne était spécial. Et on nous raconte que l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, il était kadosh. Il ne mangeait pas quelque chose qu'on n'a pas prélevé, terumot ou maasot. Il ne travaille pas Shabbat. Il ne travaillait pas, il ne volait pas. Une fois, Rabbi Hanina ben Dosa était très pauvre. Dans la Gemara, il y a beaucoup d'histoires sur la pauvreté de Rabbi Hanina ben Dosa. Alors bon, il avait un âne, il a vendu l'âne. Et après, le goy est venu chez Rabbi Hanina ben Dosa. Votre âne ne travaille pas. Comment il ne travaille pas? Oui, je lui demande de travailler, il ne travaille pas. Quoi, jamais il travaille? Non, il travaille, mais un jour par semaine, il ne travaille pas. Et quel jour? Le Shabbat. Ah oui, parce que lui, Shabbat, il ne travaille pas, bien sûr. Alors, il a dit dans l'oreille de son âne, maintenant, tu es chez le goy, tu peux travailler Shabbat. Il a travaillé Shabbat. Des fois, il louait son âne à quelqu'un avant qu'il a vendu le louer. Alors, il demandait au client, le soir, tu renvoies l'âne chez moi à la maison, tu mets l'argent, 10 euros, 20 euros, tu me le ramènes. Et le client, toujours, il mettait les 10 euros sur l'âne, il est revenu à la maison. Un jour, le client, il a le locataire, il a mis 15 euros. Te tromper. Et l'âne ne bougeait pas. Impossible. Un âne têtu comme un âne, il ne veut pas bouger. Alors, il est venu chez Rabbi Hanina. Il dit, monsieur le rabbin, votre âne ne veut pas rentrer chez vous à la maison. Il dit, c'est comme ça? Pourquoi? Vous avez mis l'argent dessus? Il dit, bien sûr. Combien vous avez mis? Vous avez mis pas assez? Bien sûr, j'ai mis assez. Ah, je pense que j'ai mis même un peu plus. Ah, vous avez mis plus? Ben, c'est pour ça qu'il ne bouge pas. Mon âne n'est pas un voleur. Ça veut dire, un homme kadosh, il influence même ses animaux. C'est pour ça, même dans la Torah, il est marqué qu'un animal d'un juif n'a pas le droit de travailler Shabbat. Tu as un âne, il n'a pas le droit de marcher avec une charme sur le dos. Le man yanuach shorcha v'chamurecha v'inafesh ben amatcha v'hager. Ata ubincha ubitecha avdecha v'amatcha v'hemtecha. Comme ça, il est marqué dans la Torah. Tous les animaux d'un juif n'ont pas le droit de travailler Shabbat. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, Pshat Pashut il est, parce que bon, on peut comprendre ça. Mais c'est plus profond que le Pshat Pashut. C'est que dans l'animal du juif, il y a quelque chose du juif dedans. Sa neshama est dedans. Et sa partie neshama qui est dedans, dans cet âne aussi n'a pas le droit de travailler Shabbat. L'argent de l'homme, ce qui vole une perruta d'un pauvre, qui ilo notel nafsho, comme s'il aurait pris son âme. Pshat Pashut il est, si le pauvre n'a pas quoi manger, et il a un morceau, un euro, avec ça il va acheter du pain, il va vivre. Si tu voles à cet homme l'euro, il n'a pas de pain, il va mourir. Donc ceux qui volent un euro d'un pauvre, c'est comme ils volent son âme. Bon, ça c'est la traduction normale. C'est plus profond que ça. C'est que l'âme de l'homme se trouve aussi dans son argent. C'est voler, on vole partie son âme parce que l'argent de l'homme, les biens de l'homme, les animaux que l'homme y possède, ce sont des outils qu'Akadosh Baruch Hu a offert à l'homme afin qu'il fasse Avodat Hashem. Vis-à-vis de dinim de Shabbat, il y a un dîme que Shabbat aussi, ton animal n'a pas le droit de travailler. Un homme, il va avoir un singe. Et le singe, il veut travailler. Le singe peut faire travailler beaucoup de machines. Il peut écrire une lettre. Eh bien, si tu as un singe qui écrit une lettre, il ne faut surtout pas qu'il ait écrit Shabbat, etc., etc. Alors, ça, c'est la fameuse question quand on arrive à Shalom, quand on habite dans un appartement, dans une maison, la lumière s'allume. Alors, on rentre, la lumière s'allume. C'est une catastrophe. Comment faire? Alors, peut-être, on achète un chien. On rentre avec le chien il allume. Mais le chien n'a pas le droit d'allumer. Mais il ne sait pas qu'il allume. S'il ne le sait pas, peut-être c'est lui permis. S'il ne ressent pas, ou il le fait tout seul, ou il faut rendre Hefker. On achète un chien, on le rend Hefker. Donc on ne transgresse pas Shvitat Behemto. Il faut savoir pour Mahamer. En tout cas, alors. L'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, il y a beaucoup d'autres histoires sur Rabbi Hanina ben Dosa, mais toujours ça tourne autour de la tzidkut, la kdusha de cet homme. Il y avait une histoire que la Gemara nous raconte. Un jour, les élèves sont venus chez Rabbi Hanina ben Dosa raconter, il y a un serpent archi dangereux qui mord les gens, c'est dangereux. Alors il a dit, où il habite ce type-là? On lui a dit, il y a un trou dans la rue, venez. Il est parti, il a dit, voilà, dans ce trou-là, il se cache. Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis son pied dessus et le serpent, il a mordu. Et le serpent, il est mort. Rabbi Hanina ben Dosa, ça ne faisait rien. Il a pris ce serpent, il l'a amené au Beit Midrash. Il a dit, regardez mes élèves, le péché, c'est lui qui tue. Quand on n'a pas de péché, on n'a rien à craindre. Bon, il y a une vieille question. Moshe Rabbeinu aussi était devant le serpent, il se sauvait. Vaya annos Moshe Mipanav, quand Moshe Rabbeinu, quand il était à Arsinaï, Hashem, il a dit, est-ce que tu es dans la main? Un bâton. Jette-le par terre. Il l'a jeté par terre. Voyez, il a nachash. Et Moshe, il se sauvait. Après, Shem, il a dit, tu attrapes la queue du serpent. Il est redevenu bâton. Donc, Moshe, il avait peur. Pourquoi? Parce qu'un serpent, c'est dangereux. Alors, comment ça se fait que Rabbi Hanina ben Dosa n'avait pas peur? Et il y a beaucoup de questions comme ça. On voit des fois des chachamim, ils n'avaient pas peur. Et ça, comme il explique le Mabit dans Sefer Bet Elokim, qu'il y a des moments que HaKadosh Baruch Hu protège le tzaddik parce qu'il veut qu'il fasse un miracle. Il veut, pour une certaine raison, il veut faire miracle pour le chizouk des élèves, pour que les élèves ils voient que son péché, on n'est pas en danger. En tout cas, il y a des moments que Hashem veut faire un miracle. Et à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu, il envoie au tzaddik un esprit de calme, d'assurance. Il sait qu'il est protégé. Et quand l'homme il ressent ce malheur qui le protège, il n'a rien à craindre. Tant que l'homme ne ressent pas ce malheur, il est soumis aux règles normales de la nature. Moshe Rabbeinu n'a rien senti parce que Hashem ne voulait pas faire un miracle. Donc Moshe Rabbeinu a agi Comme un homme normal doit agir, il y a un danger, il faut se sauver. Quand tu as Ruach HaKodesh, Hashem, il t'envoie maintenant Malach, qui Malach, il va maintenant, il va te protéger, et tu es protégé. En tout cas, c'est arrivé chez Rabbi Hanina ben Dosa, pauvre, c'est sa pauvreté aussi. On dit que sa femme pleurait. Combien de temps on va encore être pauvre? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, tu pries Hachem qu'il nous donne. Et après, elle s'est insistée. Donc, il a prié. Et la Gemara nous raconte quelque chose. Bon, on ne sait pas le traduire. Je ne sais pas comment on le traduit. On leur a donné une barre en or, un pied en or du ciel. Et le lendemain, madame, elle a rêvé qu'elle était assise avec son mari au Gan Eden et tous les tzadikim, ils avaient une table avec des pieds et leur table manque un pied. Des tables en or au Gan Eden, il manque un pied. Le matin, elle dit, mon mari, je fais un rêve bizarre. J'ai vu que toi et moi, on était au Gan Eden avec les tzadikim et des tables. Et notre table, il manque un pied en or. Il a dit, oui, mais ça, c'est le pied qu'elle a reçu aujourd'hui. On a reçu ça dans ce monde. Il a dit, ah, ce pied, c'est le Olam Haba qu'on nous a donné. Ah non, je ne veux pas. Je dis à Dieu qu'il reprend ce pied. Moi, je ne veux rien perdre au Olam Haba. Mieux vaut rester dans ce monde pour vrai. Je ne veux rien perdre dans l'autre monde. Voilà comment était Rabbi Hanina ben Dosa. La Gemara nous raconte une voix du ciel. Elle a dit, le monde entier est nourri grâce à Rabbi Hanina ben Dosa. Mais lui-même, il se contente avec très peu. Bon, on a vu un peu qui c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, bien sûr, ça correspond à tout ce qu'il a vécu dans sa vie, toute sa personnalité, tout la tzidkut, toute la kdusha, toute la yirat shamayim, il se trouve dans ce ma'amar qu'il a dit. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, kol shi'irat cheto kodemet la chokhmato. Chacun qui a la crainte du péché, elle devance sa sagesse. La sagesse dans tout, la sagesse dans la Torah. Un homme, il étudie, il veut devenir chacham. Mais pourquoi tu veux devenir chacham? Parce que tu veux connaître. C'est bien d'être chacham. Et quand tu es chacham, qu'est-ce que tu as? Eh bien, la première des choses qui arrivent dans la tête, ça peut être, les gens ils vont voir que je suis un chacham. C'est bien d'être un sage. Oui, mais est-ce que tu veux accomplir ce que tu comprends? Tu veux accomplir la chose? Tu vois, la chorma que tu as acquis, la Torah, est-ce que tu veux l'appliquer ou pas? Ça, c'est la chose la plus grande, appliquer. Quand on applique ce qu'on étudie, alors on a la chose en main. Normalement, c'est comme ça dans le monde, pratiquement partout, pratiquement chez tout le monde, plus ou moins, il y a une dissonance entre la sagesse et la pratique. Comme ça, la majorité des gens, on sait mieux que de ce qu'on pratique. On pratique un peu moins de ce qu'on dit, même si on enseigne. Un homme peut enseigner toute sa vie. Un père peut enseigner à son fils, à ses élèves, à sa communauté. Tout le monde, il enseigne. Tout le monde est un chokhma. Mais que la chokhma correspond à ce qu'on fait, c'est très peu que vraiment. Des fois, la différence est immense. Enfin, la différence est un peu moins. Mais Rabbi Hanina ben Dosa, lui, il a dit, il ne faut pas qu'il y ait une différence. « Kol shi'irat cheto kodemet le chokhmato. » Chacun qui a la crainte de péché, elle est plus grande que sa sagesse. Crainte du péché, je ne veux pas pécher. Ça veut dire, dans la Torah, il y a des mitzvot asei, il y a des mitzvot lotasei. Tu étudies les mitzvot asei et tu étudies les mitzvot lotasei. Alors, étudier le mitzvot lotaasé, il a été dit, c'est la matière du chasse. La matière des chasses, c'est pour nous dire quelles sont les actions qu'il faut faire. Et les matières, c'est quelles sont les actions qu'il ne faut pas faire. Quand tu étudies les actions qu'il ne faut pas faire, c'est génial de connaître la Torah. Et après, tu l'appliques, eh bien, il dit, « Si yiret cheto kodemet le chokhmato, chokhmato mitkayemet. » Ta sagesse, elle va se réaliser. Tu vas saisir la chokhma et la chokhma, tu l'auras. Et tu l'auras pour toute la vie. mais celui qui est l'acquisition de sa chokma, elle devance la ira. C'est-à-dire quoi, elle devance? C'est-à-dire quoi, devancer? La question, devancer, c'est le but. On dit toujours, sauf ma'asé, ma'achashava techila. Ce qu'à la fin tu veux réaliser, c'est ça la première pensée. Si avant que tu te mettes à étudier, tu veux accomplir ce que tu étudies, donc la ira tachet, elle est avant ta chokma, quand tu vas acquérir la chokma, elle va rester. Quand l'homme il dit la ira tachet, ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, première vue, c'est chokma. La chokma elle-même, je suis un homme sage, je suis peut-être admiré, peut-être ça porte aussi la parnassa. C'est le chacham, on parle du chacham. Pour la pratiquer, ça c'est une autre question. En chokhmato mitkayemet, la chokhma n'est pas mitkayem. Et ça c'était sa vie. C'est pour ça qu'il était tzaddik, il était kadosh, c'est pour ça sa tfila est mitkayem. La Gemara nous raconte quand les gens étaient malades, on partait chez Rabbi Chanina ben Bendossa qui fait la prière. Et il priait. Et quand il a terminé la prière, il disait comme ça aux gens, bon, lui il va survivre. Et un autre, il a dit, malheureusement, les élèves, ils ont demandé, maître, vous êtes un prophète? Elle a dit, non, je ne suis pas prophète, mais je le ressens dans la tfila. Quand j'ai fait la tfila, je ressens si la tfila, elle traverse le ciel, s'il arrive devant Hachem, qu'Hachem ait dit, c'est bon, j'accorde, je le ressens. Ouayaomer, lui, il disait, donc la première partie de la Mishnah, on parle des interdictions, des yiratret, pas transgresser des interdictions. Et après, il part maintenant de mitzvot asei. Kol shema asav merubim mechokhmato. Chacun que ses actions, ils sont plus nombreux que sa chokhma. Ça veut dire les maasim tovim, l'application de la Torah. Elle dépasse sa sagesse. Ce qu'il prêche aux gens, mais lui fait encore plus. Même plus, pas seulement ce qu'il prêche aux gens. Même ceux qui comprennent, ils comprennent quelque chose, ils comprennent l'importance de la tzedaka, mais ils donnent plus qu'ils comprennent. Ils comprennent l'importance du Shabbat, mais fait encore plus de kavod de Shabbat. Ils comprennent l'importance de tefillin, mais il fait encore meilleur. Ma'asav merubim et chokhmato. Chokhmato mitkayem, et cette chokhma, elle sera mitkayem. Et chol she chokhmato merubam et ma'asav, in chokhmato mitkayemet. La chokhma ne reste pas, elle va partir. Un homme qui ne fait pas ce qu'il prêche, à la fin, il risque d'oublier. Et c'est comme ça, des fois, on demande à quelqu'un halakha, et il dit une réponse. Et il s'est trompé, il a oublié. Mais il a étudié ça toute sa vie, il a étudié ça. Et quand ça arrive le maasé, il a oublié. Marqué dans les Sfarim, un homme qu'on lui demande, il répond, après il se trompait. Tu sais pourquoi tu t'es trompé quand ça t'est arrivé la maasé? Parce que tu ne le faisais pas la maasé. Tu ne le faisais pas entièrement. Parce que la chokhma a été merouba me maasav. Parce que quand tu as étudié ça, c'était la théorie. Tu ne voulais pas le faire la maasé. Et c'est pour ça que quand c'est arrivé la maasé, tu as oublié cette halakha. En chokhmato mitkayemet. Et ça, c'est Rabbi Chanina ben Dossa. Lui, il était dans la même île que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai était le gadol ador, il y a beaucoup d'alachot de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lui, c'est un grand chacham, mais on ne nous raconte pas ça. Et peut-être il voulait pas qu'on parle de lui des halachot. Et les gens sont venus chez lui pour voir sa chassidoute, sa yirat shemaim, ses tfilot. Ils voulaient voir son âne. Il y a beaucoup d'histoires sur son âne. Il y en a qui racontent son âne, ça c'est comme l'âne d'Abraham Avinu, il était le kilkul d'Abraham Avinu, et son âne c'était l'âne sur lequel Abraham Avinu était aussi. Bon, il y a beaucoup d'ignanimes.